7h26, il y a beaucoup de questions qui entourent la vaccination au Québec encore ce matin, si ce n'est l'attente de la décision de Québec concernant le vaccin d'AstraZeneca. Est-ce qu'on va ramener l'âge pour recevoir ce vaccin à 40 ans, 45 ans? On sait qu'actuellement, c'est 55 ans et plus. Le Dr Carl Weiss est avec nous ce matin. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée là qu'on voit qui est appliquée dans d'autres provinces, là, de dire on va ramener à 40, 45 ans l'âge pour recevoir le vaccin d'AstraZeneca? J'ai regardé les chiffres, là. Québec a utilisé à peu près la moitié des doses d'AstraZeneca qui perd en popularité depuis quelques jours.
Bon, alors écoutez, l'Union européenne, en date du 4 avril, l'Agence européenne du médicament a répertorié à ce moment-là, sur 34 millions de doses administrées en Europe, 169 cas de thrombose cérébrale. Si vous regardez ce qui se passe en Europe actuellement, l'immense majorité des pays ont retiré le vaccin du marché ou vont l'administrer, y compris pour les plus gros, à des gens de plus de 55 ou 60 ans. Donc si vous prenez l'Allemagne ou l'Italie, par exemple, 60 ans, la France, 55 ans, même la Grande-Bretagne, qui est pourtant le vaccin est un vaccin britannique en partie, à part Zeneca, ne l'administre plus aux 30 ans et moins. Et la Suède, qui est aussi le pays de Astra, cette fois-ci, a décidé de le limiter à certaines catégories. Donc, pratico-pratique, le vaccin d'AstraZeneca, en bas de 55 ans, même si c'est un phénomène rare, en dépit du fait d'avoir d'autres alternatives, parce qu'on a d'autres vaccins, à mon sens, on devrait le réserver pour l'instant à des patients plus âgés où le risque de faire de la COVID avec les complications de la COVID est élevé. Donc, le risque-bénéfice du vaccin, quand on dépasse 55 ans, oui, on peut l'administrer, moi je vous dirais même 60 ans, parce que le risque est plus élevé, on peut argumenter longtemps entre 55 et 60, mais le risque est définitivement plus élevé de faire une maladie sévère, de faire une thrombose avec la COVID qu'avec le vaccin quand on a plus de 60 ans. Mais prenez une femme de 40 ans, et je dis une femme parce que les femmes sont plus à risque de faire ces phénomènes thrombotiques, prenez une femme de 40-45 ans en pleine forme, qui va voir son médecin, qui va voir son gynécologue et qui dit « Est-ce que je pourrais recevoir le vaccin d'AstraZeneca ?» Une femme de 45 ans en pleine forme, qui n'a pas de problème de facteur de risque, qui n'a pas de problème d'obésité, de problème cardiaque ou qui prend de la chimie, qui ne prend pas de la chimiothérapie, son risque de développer une complication sévère de la COVID est très très faible. Et en réalité, le problème qu'on a au Canada actuellement, c'est que à cause du fait qu'on a eu une très mauvaise stratégie des vaccins, qu'on n'a pas de vaccin, qu'on n'est pas capable d'en avoir, on a pris une stratégie un petit peu d'un mélange de tout et n'importe quoi, avec comme conséquence qu'on donne des vaccins qui ailleurs où on a mis des certaines limites. Vous voyez qu'on commence à avoir maintenant une réapparition des cas, pas toujours sévères, mais des cas quand même chez les personnes âgées parce qu'on a espacé les doses des vaccins. Donc les gens qu'on a vaccinés au mois de janvier, février, nos personnes âgées, on commence à avoir un certain nombre de cas chez ces gens-là, parce qu'on n'a pas respecté les délais d'administration des doses comme ailleurs. Et donc, toujours par rapport à un manque, et je dirais presque dans un état parfois un peu de panique, on essaie de faire des politiques qui ne sont pas forcément ce qui suivent la science. Si on avait un médicament ou un vaccin qui aurait eu fait la même chose dans une situation de non-pandémie, on aurait probablement limité ou retiré l'utilisation de ce médicament dans la communauté. Donc, c'est pas que c'est un mauvais vaccin, c'est un vaccin qui a ses capacités, qui protège contre la maladie sévère, qui est bon pour les gens au-delà de 60 ans, mais après ça, le risque-bénéfice pour les plus jeunes, on peut se questionner.
Bon, vous abordez la question là, de la deuxième dose. Notamment, je voyais ce matin des experts qui disaient, dans les milieux communautaires pour les personnes âgées, donc centres de soins de longue durée, les résidences pour personnes âgées, où les gens vivent ensemble, il est important d'avoir cette deuxième dose. Une question bien technique, des gens qui ont été vaccinés avec Pfizer ou Moderna, comme on a des doses d'AstraZeneca pour les gens plus âgés, est-ce qu'on peut donner une deuxième dose avec AstraZeneca ou s'il faut y aller avec le fabricant d'origine?
Il faut aller avec le fabricant d'origine. Changer les doses, l'interchangeabilité des doses, ce n'est pas un phénomène qui, pour l'instant, est encore recommandé. Il y a des études en Grande-Bretagne, on dit qu'on essaie d'évaluer ça au Québec. Je ne pense pas qu'on ait la capacité de faire cette évaluation de façon massive parce qu'on n'a pas, on n'a pas la structure, on n'a pas le nombre et on n'a pas le nombre de doses. L'idée, c'est de donner des doses à ces personnes-là le plus rapidement possible et idéalement avec le même vaccin qu'ils ont reçu la première fois. Ce qu'on sait, c'est qu'on a étendu au Québec sans vraiment substrat scientifique les doses à 3 mois puis à 4 mois. probablement qu'il y a des sous-groupes pour lesquels ça va fonctionner. Donc, si vous êtes, par exemple, une jeune infirmière de 25 ans en pleine forme, si on vous donne votre deuxième dose à 4 mois, vous allez probablement être protégé. De toute façon, vous n'aurez pas fait de maladie sévère. Mais si vous avez plus de 75 ans ou 80 ans et vous êtes dans un CHSLD, on sait qu'il existe un phénomène qu'on appelle l'immunosénescence, c'est-à-dire qu'avec l'âge, notre système immunitaire répond moins bien aux stimuli. Probablement que d'avoir appliqué le même modèle à toute la population va nous faire finalement payer l'addition plus tard, et il est probable qu'on soit obligé d'administrer à beaucoup de gens au Québec une troisième dose à un moment donné. Déjà, il y a des pays qui y pensent pour d'autres raisons, et déjà, il y a des pays qui s'y préparent. Donc, nous, on est à peine en train de discuter du début de la deuxième dose. D'autres sont déjà rendus à quand est-ce qu'on va parler de la troisième dose.
Bon, Dr Weiss, quand on regarde d'autres pays où la vaccination a donné des résultats, c'est-à-dire qu'on a atteint des niveaux importants, là, Israël, la Grande-Bretagne, et qu'on voit ces images de retour à une certaine normalité, ici, on a comme objectif le 24 juin. Mais là, vous me corrigerez, le 24 juin, on aura vacciné, là, si tout va bien, si les stocks sont au rendez-vous, les Québécois qui veulent l'aide, mais pour une première dose, la vaccination pour la deuxième dose va, en tout cas, quand je regarde le plan, s'étirer au mois de juillet, au mois d'août et probablement septembre.
Tout à fait. Alors, on a fait le calcul simple. On est 8,5 millions au Québec. Si vous enlevez les enfants qui, pour l'instant, on ne vaccine pas les gens en bas de 18 ans, donc ça nous fait à peu près 7 millions de personnes. Même si vous enlevez peut-être un 20%, 25% qui ne voudra pas être vacciné pour toutes sortes de raisons, puis il faut respecter cela. Mais une fois que les gens seront pas, disons qu'on vaccine 80% des Québécois de plus de 18 ans, donc ça nous fait à peu près 6 millions de personnes à qui il faut donner deux doses, donc ça ressemble à peu près à 12 millions de personnes. Et donc, si on a donné, on va dire, pour faire un chiffre rond, 2,5 millions de doses actuellement. Donc, il nous reste à peu près 9,5 millions de doses à donner. Puis, la bonne nouvelle, on est capable au Québec d'administrer à peu près 70 000 doses par jour. C'est quand même bien. On n'est pas champion du monde avec ça. Mais on est capable d'administrer 70 000 doses sur un rythme soutenu. Donc, c'est sûr que ça va prendre quelques mois si on s'en va vers une perspective de doses. Mais il faudra montrer aussi beaucoup plus de souplesse, parce qu'il y a de plus en plus de Québécois, entre autres de Montréalais, qui sont allés se faire vacciner ailleurs, et je le vois dans la vie de tous les jours, des gens qui me disent qu'ils sont allés en Floride, qui ont reçu leurs deux doses, etc. Donc, jusqu'à un certain point, il va falloir remercier les États-Unis d'avoir immunisé une bonne partie de nos patients les plus âgés avec deux doses, parce que ces gens-là vont diminuer l'impact sur le système. Mais vous avez tout à fait raison, d'avoir deux doses complètement vaccinées dans une grosse partie de la population adulte au Québec, on parle de quelque part à l'automne.
OK. Il y a tout ce débat, puis je ne veux pas aller dans les chiffres nécessairement, mais sur le profil des patients qu'on retrouve, là, hospitalisés et aux soins intensifs, est-ce qu'on a raison de dire qu'il y a une espèce un rajeunissement, qu'on retrouve des patients là, plus nombreux dans la soixantaine, 70 ans ou 55 ans, plus qu'avant?
Tout à fait. Alors, la première vague, c'était des gens de plus de 70 ans, on va dire, en grosse partie. De temps en temps, on avait un patient plus jeune, plutôt par accident, on avait des 60 ans, mais là, le gros du contingent, c'est entre les 50 et 69 ans. C'est le groupe de patients qu'on hospitalise le plus, c'est qu'on voit le plus aux soins intensifs actuellement. Même si on a aussi des patients plus âgés, il ne faut pas quand même négliger, quand on regarde les patients qu'on voit à l'hôpital, il y a aussi des gens de plus de 70 ans, de plus de 80 ans, mais moins qu'avant en proportion, c'est clair.
OK. Je vais vous parler des masques N95. Il y a eu une décision qui a été rendue il y a quoi, un mois par la CNESST en disant qu'on devait l'utiliser en zone tiède. Il y a beaucoup de spécialistes, dont vous, qui dites que ce n'est pas une bonne affaire. Pourriez-vous m'éclairer là-dessus?
OK. Moi, d'abord, premièrement, moi, je n'ai pas dit que ce n'était pas une bonne affaire. Je pense qu'il y a un jugement du tribunal du travail. C'est un jugement qu'il faut respecter et qui a été fait comme tout jugement. Donc, on est dans un État démocratique où tout ce qui nous provient d'un tribunal doit être respecté. Donc, je n'ai pas dit que ces masques-là ne devraient pas être utilisés en zone tiède. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une transmission par aérosol de la COVID-19. On est tous d'accord pour dire que les N95 doivent être utilisés de façon très adéquate, surtout en zone chaude. Ce que j'ai dit que le problème actuel, c'est que si vous vaccinez tous les travailleurs de la santé, c'est que je pense que la question par rapport aux zones tièdes est mal posée, dans le sens que beaucoup de travailleurs de la santé, dans les CHSLD par exemple, refusent la vaccination. Et si vous vaccinez tous ces gens-là avec deux doses, et qu'en plus de ça, tout le monde porte des masques, le risque de transmission devient extrêmement faible. C'est tout simplement ça. Moi, je n'ai pas écrit une lettre par rapport aux ondes tièdes. Moi, j'ai tout simplement écrit une lettre au ministère pour leur demander de se positionner sur les conséquences pratiques que l'on doit mettre en place au niveau de ce que le jugement implique. Mais par ailleurs, la seule chose que je devrais dire, c'est que les N95 en zone tiède, le risque-bénéfice de les utiliser de façon massive, si vous vaccinez premièrement toutes les personnes des centres hospitaliers de longue durée, donc les personnes âgées, et tous les travailleurs de la santé dans ces centres-là, et que tout le monde utilise des masques ordinaires plus des visières pour les travailleurs de la santé, si vous mettez tout ça en place, l'utilisation d'un N95 va devenir extrêmement, je vous dirais, négligeable en termes de protection. Moi, le premier, je suis plus très, très inquiet en ayant, je devrais recevoir ma deuxième dose prochainement, je suis plus très, très inquiet d'aller me promener dans une zone tiède avec un masque ordinaire, une visière, puis j'envoie des patients à l'urgence qui sont dans des zones tièdes, tout simplement parce que avec une bonne vaccination, et il faut pas oublier que les gens qu'on fait venir dans les zones tièdes, eux aussi portent des masques. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Okay. C'est-à-dire, je ne suis pas contre du tout le port du N95, c'est juste que quand on... En réalité, il faudrait essayer de le résumer de la façon suivante. Combien de N95 allons-nous utiliser dans cette spécificité-là pour sauver une infection si les employés sont vaccinés, si les patients sont vaccinés et si tout le monde porte un masque, même ordinaire, avec une visière?
Et qu'est-ce que vous pensez de cette directive là, du ministère de la Santé qui est de dire si vous êtes un employé donc de première ligne, vous allez devoir présenter une preuve de vaccination ou encore on va vous tester ou vous réaffecter?
Ben, moi, je pense que c'est correct, mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ces gens-là ne sont pas vaccinés? Je pense que rendu au mois d'avril 2021, quand vous travaillez dans un CHSLD ou quand vous travaillez dans le milieu de la santé, sachant les bénéfices de la vaccination, on se pose la question, et la disponibilité des vaccins, on se pose la question de pourquoi ces gens-là ne sont pas vaccinés, et sachant que, comme souvent, ce sont des gens plus jeunes et en santé, le vaccin est très efficace dans cette catégorie de gens. Donc, moi, si vous me donnez deux doses de vaccin, j'ai quasiment aucune inquiétude à aller me promener dans une zone tiède, même avec des cas suspectés de COVID. L'exemple parfait, c'est un pays comme Israël qui a vacciné tout le monde avec deux doses et qui a fait retirer les masques à tout le monde et qui a une population qui se promène dans la rue, qui va au restaurant, plus personne porte des masques, ils sont tous assis les uns à côté des autres et il n'y a quasiment pas beaucoup de cas de COVID. Alors, ça vous donne une idée sur la protection que deux doses de vaccin bien effectuées va faire. Et à ce moment-là, on est en train de faire un débat pour quelque chose qui a très peu ou quasiment pas d'importance. En réalité, c'est un débat qui devrait être dépassé puisque le vaccin est déjà là.
Dr Weiss, merci beaucoup. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Dr Carl Weiss, microbiologiste. Il est à l'Hôpital Général Juif de Montréal, 7h39.